Ils sont invités à le faire.
Yep.
Hello, this is the...
Bonjour. Merci. Vous voilà prêts pour commencer. Prenez vos places, s'il vous plaît. On commence à 10h30 dans la salle Saint-Elme. Oui, et les personnes qui sont au fond de la salle, s'ils veulent s'asseoir dans les sièges du front, s'il vous plaît, ils sont invités à le faire. Bon, soyez les bienvenus. Nous avons quelques séances ensemble pour ces premières 45 minutes pendant lesquelles nous allons discuter les avancées des 5 projets pilotes que nous avons commencé comme une part de plan, du plan stratégique pour la région de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour le reste des 45 minutes de cette séance, nous allons maintenir l'une des séances qui font partie de la mise en œuvre de l'un de ces 5 projets. C'est le projet sur l'espace de l'Amérique latine et les Caraïbes dans les réunions de la CAN, avec un centre plutôt commercial. Nous aurons les bureaux d'enregistrement de la région, les candidats des nouveaux GTLD, les CC et d'autres organisations du secteur privé de l'Argentine. Je pense que ce sera une réunion assez riche. On aura les bureaux d'enregistrement ici aussi. Et on verra les séances qu'on a aussi conçues en tant que partie de la stratégie pour la région. Je veux directement remercier Fadi Chehadé, le PDG et directeur exécutif de l'ICANN, de nous avoir honorés avec sa présence et de parler à nos amis ici de la région. Fadi, merci Rodrigo. C'est Fadi Chehadé qui prend la parole. Me voilà dans le seul endroit où je sens que je n'ai pas les langues dont j'aurais besoin. Mais peut-être qu'un jour, je les aurai. Mes enfants parlent l'espagnol très bien, couramment. Ils ont tous les deux vécu en Guatemala et Granada. Alors, pour eux, l'espagnol, c'est leur deuxième langue. Mais un jour, je vous promets, je vais parler l'espagnol. Alors, je m'excuse de ne pas le parler aujourd'hui et de ne pas parler le portugais aussi. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je sais que je me suis trompée dans mon discours ce matin. Lorsque j'ai mentionné l'Amérique latine, je n'ai pas dit les Caraïbes. Donc, c'est un apprentissage pour moi. J'ai appris la leçon. Je m'excuse à mes amis des Caraïbes. Ce n'est pas parce que je ne sais pas que vous y êtes, mais c'est que ça fait partie de mon apprentissage. J'ai eu le même problème au début avec l'Asie, je dirais. Toujours, je disais l'Asie et j'oubliais le Pacifique. Mais j'apprends, et maintenant qu'on a Albert ici pour les Caraïbes et qu'on a Savé dans les îles du Pacifique, je ferai plus attention. Donc je m'excuse, j'espère que vous accepterez mes excuses. Certains parmi vous m'ont déjà entendu dire cela, mais je le répéterai parce qu'on est une famille ici, en Amérique latine et les Caraïbes. Et c'est que lorsqu'on a commencé ce voyage récemment, on devait considérer la gouvernance Internet. On a commencé il y a 3 mois et l'une des personnes qui m'accompagnait était Kofi Annan. J'ai rencontré M. Annan et je lui ai parlé du discours de l'ONU de Dilma Rousseff et de la gouvernance Internet. Et je lui ai dit, pourriez-vous m'aider avec le modèle multipartite? Rappelez-vous que Kofi Annan était le secrétaire général en 2005, lorsque ce processus a été un peu lancé, disons. Il m'a dit non, je ne vais pas vous aider parce que l'aide et l'initiative sur la gouvernance Internet ne correspondent pas à moi en Afrique. Tout cela vous viendra de l'Amérique latine, donc il faut que vous y rendiez. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi m'envoyez-vous en Amérique latine? Et il m'a dit, parce qu'en ce moment, si vous voyez comment les pays dans cette région évoluent et comment ils comprennent la gouvernance Internet, ils sont les plus actifs. Ils sont les pays qui prennent ce travail extrêmement au sérieux en ce moment. Indépendamment du discours de Dilma Rousseff à l'ONU, en outre de ça, il était tout à fait sûr, lorsqu'il a dû choisir sa main droite de l'Inde et le président de l'IGF, et il m'a dit, je vous promets, je suis convaincu que l'Amérique latine est l'endroit où il faut y aller. Donc allez-y. Et je me suis rendue immédiatement après cela en Uruguay. Et j'ai visité la Casa d'Internet. Et c'est une Casa d'Internet qui est magnifique, cette maison. Et c'est un effet qui ne se voit dans nulle autre part au monde. Et c'est remarquable. Hein? Je pense qu'il devrait y avoir ça devrait être un modèle pour le reste du monde. Que toutes les organisations qui sont intéressées au progrès de l'Internet pour vos gens aient une maison. Ils sont tous ensemble là. Le fait que l'association des télécommunications de la région soit dans cette maison est magnifique. L'association des télécommunications de l'Europe ne pourrait pas se réunir avec nous, même pas à 6 tables de nous, donc, ou même à 6 rues. Hein. Alors c'est impressionnant d'avoir tout le monde dans la même maison. L'ISOC, l'ICANN, les organisations de recherche, l'ACNIC, tout le monde est ensemble dans un même bureau et ils travaillent pour les gens de l'Amérique latine. Et je vous le dis, j'étais impressionnée et j'ai demandé à mon équipe de travailler avec Raoul et beaucoup des fondateurs de cet endroit, de ce bureau, pour faire que cette Casa d'Internet avec le même nom soit un modèle de référence pour le monde. Donc bravo, c'est bien fait, c'est réussi. Hein. Et c'est pas une question d'épargner ou d'économiser, donc avoir un seul bureau. C'est une question de se réunir, de finir avec l'isolement, de travailler ensemble. Alors je vous félicite. Et puis vous rendez au Brésil et de plus en plus, comme on voit au Mexique la semaine dernière, on voit des progrès au Costa Rica, en Argentine maintenant. Tous ces pays adaptent un modèle multipartite national. C'est remarquable. Nulle part dans le monde on ne voit cela. Donc maintenant, en ce moment, vous êtes à l'avant. Et je viens de revenir de la Turquie et j'ai dit au gouvernement, il faut que vous copiez les modèles de l'Amérique latine. Donc le gouvernement turc vient d'envoyer une délégation en Amérique latine pour qu'ils voient comment organiser l'Internet. Ils envoient des délégations. Je dis au monde de venir en Amérique latine et de voir comment les gouvernements, les communautés, les parties prenantes sont en train de développer au niveau national des accords multipartites sur comment on devrait gérer l'Internet pour le bénéfice de leur peuple. Je suis très impressionnée et j'espère que cela sera clair pour vous. Je ne vous le dis pas, mais je fais ce qui est nécessaire pour montrer au monde que vous êtes à l'avance. Donc merci pour cela. L'importance d'une approche nationale est due au fait que pendant trop de temps, certains parmi nous, nous sommes centrés de trop sur la nature ou l'essence internationale, transnationale de l'Internet. Et l'Internet n'a pas de frontières, c'est international. Mais les gens, ce sont des nationaux. Ils habitent dans des pays qui ont des lois. Et ces lois doivent être comprises. Et le modèle de gouvernance Internet doit être conformé à ces règles, à ces lois des pays. Il faut qu'on travaille avec les gouvernements, avec les institutions académiques, avec toutes ces gens qui font que l'Internet soit ce qu'il est aujourd'hui. Il faut qu'on s'associe au niveau local et qu'on discute. Et mon premier voyage après ma première réunion de la CAN était de visiter à Sao Paulo le CGI du Brésil. C'était mon premier voyage. J'étais épuisée, mais j'ai pris un avion, je me suis rendue à Sao Paulo. Il n'y avait pas besoin de parler. Je m'y suis rendue pour regarder comment le CGI travaillait pendant un jour. Et j'ai beaucoup appris. J'ai vu comment les gouvernements, les institutions, les différents groupes se réunissent une fois par mois pour se mettre d'accord sur la gestion d'Internet dans leur pays. Mais le modèle du CGI n'est pas parfait. Et ça ne devrait pas l'être. Hein. Ça ne devrait pas l'être de modèle international, mais ça devrait être juste un autre modèle au monde. Je sais qu'au Costa Rica, qu'au Mexique, on a d'autres modèles. Dans l'énergie que je vois dans cette région, vous allez être la référence. Donc, Kofi Annan m'a parlé. Cette région a de l'initiative. Et la présidente Rousseff, lorsqu'elle a parlé à l'ONU, elle était frustrée. Elle se sentait frustrée. Elle a parlé au nom de beaucoup parmi nous. Ce n'était pas seulement pour ceux qui sommes ici à table, mais pour le reste du monde aussi. Hein. Elle avait raison. On a besoin de se mettre d'accord sur les principes. L'Internet n'est pas un western. Oui, on doit être libre et ouvert. On doit tous adhérer à cela. Mais on doit aussi garantir qu'il y ait des règles mondiale et nationale pour pouvoir fonctionner même avec la friction générée par l'Internet. Et c'est un mot-clé, hein, l'Internet sans friction. Friction, on ne veut pas un Internet sans friction. On ne veut pas avoir de friction lorsqu'on passe d'un pays à un autre. Et comme Lynn de l'ISOC dit toujours, on veut une innovation sans avoir à demander la permission pour le faire. Je pense qu'on est tous engagés avec ces buts, mais il faut qu'on comprenne aussi que l'Internet n'est plus juste un spectacle à part, c'est le spectacle central. En Corée, cette année, le vice-ministre de Corée m'a dit que 43% du PBI de la Corée était congelé. Et c'était ça ce qu'il m'a dit, hein. C'était leurs estimations. Il m'a dit « c'est pire que la guerre ». Donc c'est du sérieux pour l'économie, pour les politiques, pour la société, pour la vie même. Beaucoup de nos nouveaux outils avec cet Internet des choses qui grandit, qui s'élargit, vont dépendre de l'Internet. Et puis d'autre part, pour conclure, je veux vous parler de la stratégie de l'Amérique latine et des Caraïbes que vous avez développée ensemble. Comme j'ai dit ce matin, on a 6 régions qui font cela et vous, vous êtes une des 6 régions. Mais je vous dirais que l'énergie avec laquelle vous déployez votre stratégie est impressionnante. Encore une fois, c'est vous qui marquez le rythme. Donc, ce n'est pas pareil de créer une stratégie, vous êtes un multipartite, il faut que vous mettiez d'accord, vous l'avez fait. À Pékin, vous nous aviez montré la stratégie, je me souviens. Et je me suis dit, waouh, c'est agressif. Votre stratégie était importante, il y avait plein d'activités, plein d'idées, mais vous êtes en train de la mettre en œuvre. Vous avancez, je vois comment Rodrigo travaille et je suis impressionnée d'ailleurs. Et encore une fois, le monde peut apprendre de cette énergie, de cet enthousiasme de l'Amérique latine et de cette chaleur parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Moi aussi, je viens d'une région très passionnée et c'est très important pour ceux qui me font avancer. Parfois, j'ai des copains anglo-saxons qui ne comprennent pas très bien, mais je pense que vous le comprenez dans mon comportement. Mais c'est important parce qu'on est des personnes. À fin de compte, il faut qu'on croie à ce qu'on fait. Vous croyez à ce que vous faites? Bien sûr, parce que vous le faites. Et je suis très fière de cette région, très fière de Rodrigo. Il vous dira, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites pour la CAN? Et il m'a dit, ah oui, moi, je suis le vice-président des partenariats en Amérique latine et les Caraïbes. Et je dis, parfait, vous habitez où? Il a dit, Washington. Et j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites à Washington? Déménager. Et il m'a dit, mais j'ai une famille, j'ai des enfants. Moi, je dis, ça me regarde de pas rentrer chez vous. Et donc, il est revenu au Mexique. Et c'est normal. Il ne doit pas gérer cet énorme effort de la région depuis Washington. Et il nous faudrait avoir davantage de personnes ici, dans le site, pas ailleurs. C'est vous qui devez diriger cela. Moi, je suis engagée avec vous, avec Rodrigo, et pour élargir l'équipe, je suis engagée avec toutes les ressources nécessaires pour que l'Amérique latine et les Caraïbes soient vraiment le phare du monde, l'étoile qui brille comme guide. Et pour ce qui est de la gouvernance Internet, vous l'êtes. Il faut se centrer pour développer l'harmonisation du national et de l'international. Et vous êtes ce guide. Lorsque vous développez des stratégies nationales, assurez-vous de ne pas les désynchroniser avec la stratégie globale. C'est ça qui est très important. Parce que je sais que beaucoup parmi vous commencent à penser comment vous allez gérer l'Internet dans vos pays. Et je le soutiens, je pense que c'est un énorme progrès. Mais il faut s'assurer que ce soit aussi lié avec le panorama global. Parce que si ça se désynchronise, vous n'allez pas travailler pour vos personnes. L'Internet va être plus isolé. On va avoir un Internet qui va être plus atomisé. Et on aura des frictions qui reviendront. Le Boston Consulting Group vient de travailler pour l'ICANN pour montrer comment une Internet sans friction impactera les économies des pays. Pour montrer qu'une Internet vraiment sans friction est bonne dans l'intérêt de vos pays. Ça développe des postes de travail, ça développe les économies. Et ce rapport sera publié l'année prochaine. Et ce sera par pays. Je ne sais pas quels sont les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes qui sont inclus dans le rapport. Rodrigo pourra le dire. Mais on a choisi des pays par région pour commencer à montrer vraiment quel est l'impact réel d'une Internet ouverte et sans friction. Je voudrais conclure disant quelque chose sur la surveillance et les révélations de Snowden, ce qu'il a divulgué. Je pense que la confiance à l'Internet a été mise en question. Vos gens, les miennes, tout le monde, vos mères, ma mère qui se sert d'Internet, qui pensent que cela est sûr, qu'on devrait faire confiance à l'Internet. On a perdu cette confiance. Il y a des personnes sérieuses qui se servent d'Internet, qui y font confiance. Lorsque je fais quelque chose, j'envoie une lettre à ma femme, c'est entre elle et moi. Et cette confiance doit être préservée. Si les gens perdent cette confiance, je pense qu'on va perdre la valeur de l'Internet. Malheureusement, ces divulgations et d'autres qui continueront d'apparaître, bien sûr. Malheureusement, pas seulement pour Snowden, mais pour plein d'autres gouvernements qui le font toujours, parce qu'il y en a toujours des gouvernements qui le font. C'est très triste. Il faut qu'on préserve cela. Comment le faire? J'ai été très impressionnée par la séance à la fin de l'ITF. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il y avait des ingénieurs qui se mettaient debout pour dire « Il faut qu'on préserve l'Internet, qu'on la protège. » Et nous aussi, tous, nous tous, du point de vue technique, du point de vue de politique, c'est nous qui travaillons pour l'Internet. Cherchez pas à ce que je le résoudre ou à ce que les présidents le fassent. Les gens, lorsque les divulgations Snowden apparaissent, ils vont où? Ils vont voir leur gouvernement. Et je disais, ah, bonjour, c'est pas les mêmes gens qui vous regardent? Allez voir les gouvernements. Intégrez les gouvernements au débat avec toutes les parties prenantes. Les gouvernements ne peuvent pas être exclus des discussions. Ils doivent faire partie de ces débats. Mais il faut inclure les autres aussi pour qu'on ait une discussion équilibrée et honnête. OneNet a été créé pour ce but. Si vous ouvrez le site de OneNet, ça dit pour aider à sauvegarder la confiance Internet. OneNet, en ce moment, est presque vide. Et c'est à propos. C'est fait exprès parce que personne ne peut écrire rien sur OneNet en votre nom. Donc, allez sur OneNet, parlez, exprimez-vous. Le monde doit savoir qu'on n'est qu'un. En Internet, on n'est qu'un. Et c'est pour ça qu'on appelle OneNet. Parce qu'il n'y a qu'une Internet. Il y a plein d'aspects qui nous divisent. Donc la langue, la nourriture, la culture parfois. Malheureusement, nos religions aussi. Et peut-être que l'Internet est l'une des dernières choses qui peuvent nous unir. Donc ne perdons pas ça. C'est une autre occasion. Il faut la maintenir une, la maintenir forte. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les gens ne se divisent pas sur Internet. Il y a d'autres qui essaient de nous diviser, même en ce moment. Les grands pays au monde, ils annoncent qu'ils veulent créer, par exemple, une Internet allemande, comme dit Deutsche Telekom. Et ce n'est pas bon, on ne veut pas avoir une Internet allemande, on veut avoir une Internet. Merci. Merci beaucoup, Fadi. C'est Rodrigo de la Parra qui reprend. Merci de ces mots qui sont, comme toujours, très encourageantes pour le groupe. Et nous allons maintenant continuer avec cette séance. Et je vais montrer aux leaders et dirigeants des différents groupes de travail qui ont été créés pour les 5 projets pilotes de présenter les avances de leur groupe. Et donc, je passerai maintenant la parole à Tony Harris et Andrés Piazza. Fanny, excusez-moi, je vais parler en espagnol maintenant. Bon, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tony Harris. Je suis un co-auteur de ce projet que nous allons détailler un peu maintenant. André Piazza et moi vous étiez demandé de diriger le Roadshow Project, c'est-à-dire c'est l'effort de diffusion dans la région que nous allons faire pour promouvoir et encourager la participation et le rapprochement de secteurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas ni visibles ni présents dans l'environnement de NICAN. On passe à la diapo suivante. Bon. En premier lieu, j'ai pensé à proposer une question de la structure de base du Roadshow. Vous voyez sur l'écran, il y avait un comité d'organisation et puis j'ai oublié mes lunettes, je m'excuse. Mais en fait, on part d'une structure de base pour ce roadshow avec ses participants. Diapo suivante. Bon, je trouve que sans mes lunettes, je me débrouille. Hein. Et puis on passe à la définition de où on voudrait mettre en place cet effort dans le premier semestre 2014. Je pense qu'en premier lieu, ceux qui ne sont pas représentés sur cette liste, vous inquiétez pas, hein, c'est un brouillon. On pourrait changer toute cette ville pour d'autres. Et en plus, l'année a 6 mois de plus, donc dans le deuxième semestre, si Rodrigo est pour, et si l'ICANN veut continuer avec cette initiative, on pourrait bien sûr la prolonger. Diapo suivante. Puis il faut qu'on pense aussi, bon, j'arrive pas à lire. Ça ne me gêne pas si je parle avec le PC là-bas, parce que je ne vois pas. Je m'excuse. Hein. Les yeux, en fait, ne fonctionnent plus parce que j'ai fait des efforts pour l'Internet. Ce sont des vieilles blessures. Donc les activités de chaque roadshow. On a besoin de la présence en tant que parrain ou orateur dans un événement des TIC. C'est-à-dire, lorsque je parle de parrain ou d'orateur, d'aller dans un événement de technologie dans la région qui soit important en tant que parrain et pour aller adresser un discours en tant qu'orateur. Donc cela serait orienté pas pour des événements, des personnes qui appartiennent déjà à l'ICANN et au cercle de l'Internet. Lorsque je dis cela, c'est les événements auxquels on est des habitués et où tout le monde sait déjà ce qu'est l'ICANN. Et cela, en fait, n'ajouterait pas de nouveaux acteurs. Mais un exemple serait, par exemple, je m'excuse avec Eric, hein, mais à Pérou, j'ai vu qu'il y a un événement qui s'appelle Expotic, c'est un événement de technologie à Lima. J'ai pensé que ce serait peut-être un bon événement où essayer de participer. Pour profiter de la présence dans l'une de ces villes, j'ajouterais même une présentation pour les secteurs académiques. On devrait le faire dans une université de préférence. C'était une idée de Olga Cavalli. Elle l'a mentionné la dernière fois lors de nos réunions. Je pense que c'est un bon point à ajouter à cet effort. Et puis finalement, je répéterai une expérience de ce qu'on a fait à Buenos Aires une fois. qui était un petit déjeuner de travail pour les ONG. Dans tous les pays, je l'ai dit déjà, dans tous les pays de la région, on a beaucoup d'ONG qui ne sont pas spécifiquement du secteur technologique, mais qui sont des points de diffusion importants, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des membres ou participants. Diapo suivante. Ah, pardon. Bon, j'ai un assistant ici, de luxe. Hein. Structure numéro 4, le public objectif, donc cible. On pense à des compagnies, à d'organismes liés au TIC, des fédérations et des chambres de commerce, et des technologies d'information et des communications, et des ONG en général. Et à travers les ONG, on pourrait diffuser notre travail à la société civile. J'insiste, il y aura d'autres acteurs, et on sera content de voir d'autres acteurs. C'est à votre tour de les proposer, hein. Puis, on continue d'avancer et il faut qu'on pense au contenu de chaque roadshow. Non, pardon, Tony, c'est André Piazza qui prend la parole ici. On se voit pas, je suis un peu loin. Mais c'était une clarification lorsque t'as donné la possibilité d'une clarification et c'est important, à mon avis, de le faire, particulièrement parce que les collègues de CNC Argentine sont là. Et on discutait tout à l'heure que le secteur public n'est pas exclu de cette liste. On n'a pas déterminé le secteur public en tant que groupe de portée, mais bien sûr qu'il pourrait l'être. Le fait qu'il n'est pas dessus n'est pas dû à une raison particulière. C'est ça que je voulais clarifier. Oui, merci Andrés, dit Tony. Je m'excuse, évidemment, je n'ai pas été suffisamment claire, mais bien sûr que l'objectif est que personne ne soit exclu. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas inclus sur ces diapos, je m'excuse, mais bien sûr, c'est un brouillon, c'est un travail qui est toujours en train d'être complété et on pourra le compléter ensemble. Je pense que pour les contenus des roadshows, en pensant au but d'atteindre une bonne diffusion et l'incorporation de nouveaux acteurs à l'entourage de la CAN, à l'environnement de la CAN, une question fondamentale est l'expansion des domaines génériques, c'est des nouveaux GTLD. C'est une question qui est très intéressante du point de vue commercial pour certains, pour d'autres, dû à la protection de leur marque. C'est un projet qui a des impacts pour tout le secteur des services, que ce soit d'hébergement, de sites web, des fournisseurs Internet. Donc c'est une question qui me semble très compréhensible et qui peut-être n'a pas la portée à toutes les personnes qui devraient en fait atteindre parce qu'il y a des problèmes de massification. Mais une partie de cet effort sera de résoudre ce point-là. L'IPv6 et l'épuisement de l'IPv4 est une question qui n'est pas certes toute simple. Il y a beaucoup d'efforts que la CNIC a fait dans la région depuis des années. On n'a pas énormément de choses à dire sur leur efficacité. Mais on aurait besoin d'essayer d'atteindre une accélération plus importante en ce moment et peut-être de la faire intéresser dans l'entourage de l'IPv6 et des fournisseurs de connectivité pour que les titulaires, les CIO, donc les chefs d'exploitation des informatiques, et d'élargir la portée de l'intérêt pour le déploiement de l'IPv6. Puis on a la sécurité, la stabilité, la résilience de l'Internet. C'est une question qui nous intéresse tous. Et il y a des experts qui pourront venir. En fait, ici, dans la CAN, on en a plusieurs dans cette réunion qui peuvent venir nous expliquer tout ce qui porte sur ces questions de sécurité. Et puis, on a les registres. Donc les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement pour que l'utilisateur public en général puisse avoir la connaissance de ces deux options pour participer de façon active et du point de vue commercial dans la vente de noms de domaine génériques. On n'a pas assez de participation dans la région, malheureusement, des registres et des bureaux d'enregistrement, et c'est une question où on fait des propositions et on discute ici avec Rodrigo pour voir s'il pourrait y avoir des corrections qui adaptent ces options aux possibilités des acteurs de notre région. C'est-à-dire que des fois, la barrière que l'on a est une barrière d'accès du genre économique. Et puis finalement, pour ce qui est des contenus, je pense qu'on devrait renforcer le message de pourquoi il est important de les avoir participés à l'ICANN, de les faire participer. Je pense que c'est une question de base sur laquelle il faut qu'on se concentre. Prochaine diapo. J'ai osé ici préparer des estimations. J'allais mettre 2 millions de dollars et j'ai pensé en fait à la dette que Rodrigo allait me faire et je l'ai réduit un peu. Et on pense à 6 activités du genre faire des marchés avec des voyages et des logements pour 2 personnes du groupe LAC par événement. Et c'est pas des personnes du groupe, mais des participants, pas seulement de la CAN. Leur séjour, le logement, des matériels de marketing et de diffusion. Il faudrait avoir des brochures pour pouvoir les distribuer. Le déjeuner de travail pour les ONG. Et le budget total, à mon avis, c'était 167 000 dollars. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais c'est un point de partie, je pense. Un point de départ. Par rapport à la structure, nous croyons que... Et j'ai ajouté ici des noms et des prénoms. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dessus. Vous pouvez vous ajouter vous-même, ce n'est qu'un brouillon. Mais ce sont des acteurs qui peuvent continuer à organiser les roadshows. À Sao Paulo, j'ai pensé à Hartmut Glaser, Bandas Cartesini, Carlos Afonso, Eduardo Paraujo, Wagner Maia et les gens d'Abrint. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont être bienvenus. À Santiago, j'ai pensé tout de suite à Margarita, à Gonzalo, à Caterina Acherman, à Lima, bien sûr, Eric, qui est ici, certains membres du GAC, du Pérou que j'avais rencontré et qui me semblaient des personnes très intéressantes pour ce projet, mais dont je ne me rappelle plus les noms, et puis Toledo et Bocio. Au Mexique, je pense à Oscar Robles, Alejandro Pisanti, Julio César Vega. Et à Buenos Aires, Olga Cavalli, Gabriela Slack, Fatima Cambronero, Celia Lerman, etc., etc. Toutes ces personnes que je n'ai pas pu ajouter pour des questions d'espace sur ma diapo. Au Caraïbe, on a pensé à Tracy Sintra, Dev, Jacqueline Morris. Et puis, en général... Fortunément, on a Carolina Guerre et Sébastien Bejangamba. Et bien sûr, Raoul et l'ACNIC et toutes les entités qui participent à la Casa d'Internet et qui peuvent participer ainsi. Et finalement, j'ai pensé qu'il y a des événements sur lesquels on pourrait faire un profit, on pourrait tirer un profit. Dans une téléconférence récente, on a mentionné l'école de gouvernance Internet qui a un événement à Trinité qui me semble une initiative intéressante pour construire dessus. Et puis, j'ai été impressionnée par les e-commerce days, comme ils sont appelés. Je comprends que c'était une grande réussite, un succès et ils parcourent certains pays toutes les années. Plusieurs. Je suis arrivée ici avec cette inspiration de minuit. Je m'excuse de ne pas avoir mes lunettes, de vous avoir fait attendre. Et je pense que je passerai maintenant la parole à mon collègue Andrés, parce que j'ai pris le micro tout ce temps et il y a certaines questions ou suggestions.
Au final, nous sommes apprêtés.
Si vous voulez, on passe aux questions. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aussi donner la parole à mes collègues. Hein, on est un petit peu en retard déjà. Donc, si vous voulez, on laisse les questions pour la fin. Bien. Donc, Rodrigo, je vais en profiter pour contribuer avec cet objectif d'être bref. parce que Tony a vraiment bien décrit et il a donné une idée générale de ce que nous faisons en tant que groupe, de ce qu'il nous reste à faire aussi. Et après les roadshows, il a parlé un petit peu des endroits choisis. Ce sont des endroits traditionnels qui, pour beaucoup d'autres, lorsqu'on veut faire quelque chose en Amérique latine et aux Caraïbes, on a 6 ou 7 endroits et on choisit toujours un peu les mêmes endroits. Mais ça ne veut pas dire qu'on puisse pas ajouter d'autres localités, d'autres endroits. Hein. Donc, proposez-nous des endroits pour faire des réunions. Il y a d'autres endroits. Hein. On est disponible. Hein, si vous avez des suggestions à nous faire pour des endroits où on pourrait organiser donc des réunions avec une bonne quantité de public et où on puisse profiter de l'occasion pour faire un roadshow, hein, on est à votre disposition. Voilà. Et maintenant, je donne la parole au public pour les questions. Bien. Alors, identifiez les leaders de chaque projet pour que si quelqu'un veut partager ou participer au projet, hein, à ce moment-là, vous pourrez en parler avec Andrés de la CNIC. Et bien, le défi numéro 2 concernant les plans de communication avec Tommy, Davy et Fatima. Hein. De nouveau, s'il vous plaît, soyez bref. Bien, merci beaucoup, Rodrigo. Je suis Fatima Cambronero. Et nous allons présenter les progrès que nous avons faits dans ce projet numéro 2 de communication. Mais avant tout, je voulais remercier l'équipe, le personnel d'ICANN pour notre région et dans le domaine de la communication, Alejandra Gdansk, qui a vraiment communiqué avec nous, qui nous a permis d'avancer dans ce projet. Alors, quels ont été les objectifs dont nous avons tenu compte pour donc, mettre en place ce projet ? Ils sont liés à la possibilité de créer un matériel éducatif lié à l'information, à l'informatique, hein, créer un site Internet spécifique pour l'Amérique latine et les Caraïbes et créer des contenus et du matériel de divulgation clair, global, destiné aux différents acteurs, principalement les acteurs économiques de notre région, et créer un matériel clair et compréhensible qui soit destiné aux nouveaux GTLD. Ici, nous avons divisé ce projet en différents volets sur lesquels nous avons travaillé et que nous allons vous présenter l'un après l'autre. Alors, donc, d'abord, nous allons parler de ce que nous avons fait par rapport au nouveau matériel et au contenu en différentes langues destinées à notre région. Nous avons publié sur différents blogs que nous avons postés dans notre région en espagnol, en anglais et en portugais du matériel sur les activités à développer dans notre région. Par exemple, on a publié du matériel sur des événements organisés à Córdoba en Argentine, des ateliers sur l'ACTLD, la visite de Fadi à la maison d'internet de Montevideo, l'élection de Carlos Martínez qui est ici pour le SESAC, et l'événement de gouvernance d'Internet au Mexique. C'est aussi la première fois que l'on a pu diffuser du matériel en espagnol sur la page d'ICANN concernant ces événements et la réunion donc, de Buenos Aires et concernant les différents boursiers de l'ICANN. Et nous avons aussi organisé des banners ou créé des banners dans ce sens. Nous avons aussi des documents actualisés de la CRALO en portugais, en français, en anglais, en espagnol. Et c'est la première fois que l'on présente au cours de ces réunions un guide spécifiquement destiné aux participants d'Amérique latine et des Caraïbes qui est disponible de nouveau en 3 langues, espagnol, portugais et anglais, et qui est destiné aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent voir les événements, les réunions destinées à la région et destinées donc au public de la région. Hein. C'est aussi la première fois que nous avons donc des stickers, des banners, des autocollants hein, et donc qui sont distribués au cours de notre réunion de Buenos Aires pour montrer les différents, pour parler, pour diffuser des différents événements qui ont lieu ici en Amérique latine et aux Caraïbes. Et nous avons publié des articles concernant donc l'engagement central et qui ont été publiés dans la revue de l'ACTLD qui est distribuée ici sur les nouveaux GTLD. Et nous avons un nouveau contenu qui est publié et mis à jour en espagnol et en anglais à travers des vidéos aussi qui sont en espagnol et beaucoup de matériel audiovisuel aussi que nous proposons. Une vidéo sur les pionniers de l'Internet en Amérique latine et aux Caraïbes en espagnol, sous-titrée en espagnol et en anglais. Et une vidéo sur la nouvelle Casa d'Internet, la nouvelle maison d'Internet de vidéos en plusieurs langues aussi. Un des objectifs de communication, du projet de communication, était lié au soutien que l'on fournit aux événements organisés dans notre région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et depuis que nous avons commencé donc à mettre en œuvre ce projet, nous avons eu l'ACNIC, l'ACTLD, un événement qui a eu lieu au mois de mai en Colombie, un autre événement de ICT qui a eu lieu en Haïti, un événement de l'ACNIC aux Caraïbes, et à la même date, et un événement du forum ministériel aux Caraïbes, et un groupe d'ateliers du LACTLD au Panama, et dans les Caraïbes aussi, un événement du Mexique sur le dialogue de gouvernance sur Internet, et le dernier événement de l'ACNIC à Curaçao. Nous avons aussi travaillé sur la présence d'ICANN dans les médias et dans les médias sociaux, sur les différents réseaux sociaux, et on a créé un nouveau compte d'ICANN en espagnol pour distribuer des contenus en espagnol. Ici, vous voyez donc l'adresse. Suivez donc cette newsletter ou ce Twitter dont vous avez ici l'adresse pour connaître le contenu. Et ici, vous avez donc les adresses pour nos amis du Brésil qui peuvent suivre ce compte aussi de Twitter, qui vont comme ça être au courant et recevoir du matériel dans leur propre langue. On a aussi créé un profil de scoop.it sur lequel on a publié des articles en espagnol. Et en portugais, on a publié différents articles en portugais donc sur ces sites. Et puis, je voulais aussi signaler notre présence dans les différents médias, dans les journaux et à la télé. On parle beaucoup plus de tout cela sur des sites Internet, dans les blogs qui donc diffusent les contenus que nous leur transmettons, des notes de presse, des articles de presse qui sont donc traduits dans les différentes langues de la région afin que notre public soit au courant de ce qui se passe à ICANN en général. Et maintenant, je vais donner la parole à Dave pour qu'il vous parle un petit peu de ce qui se fait au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci Fatima, bonjour à tous, je suis Dave Atilaxing et je suis un membre du comité de l'At-Large sélectionné pour la partie d'At-Large de l'Amérique latine et des Caraïbes et donc je travaille dans la région des Caraïbes. Un des objectifs de ce plan de communication était de créer un site internet dédié pour l'Amérique latine et pour la communauté de ICANN située dans la région. Donc nous avons fait un modèle pour la structure de notre site internet qui va être multilingue, qui va être donc en espagnol, en anglais et en portugais. Une section de ce site internet concerne les outils éducatifs d'ICANN, les formations sur le DNS, les questions de politique clés d'ICANN, les possibilités de participation dans ICANN, etc. Une autre section va offrir des documents pour les personnes qui ne connaissent pas ICANN, donc le rôle d'ICANN, par exemple, si ça vous intéresse et vous êtes intéressé par la propriété intellectuelle, les regroupements constitutifs de IP, si vous êtes intéressé par l'Internet pour les utilisateurs finaux, donc la communauté à large peut vous intéresser, etc. Les différents domaines donc de ICANN, en fonction des intérêts de chaque personne. Donc, je reviens en arrière. Une autre section avec des documents pour chaque pays d'Amérique latine et des Caraïbes en fonction donc des parties prenantes de ces pays. Notre idée est ici de faire un travail de réseautage pour mettre l'accent sur les parties prenantes qui existent, les participants qui travaillent déjà dans ICANN, et donc selon ce modèle multipartite, et le modèle va identifier aussi les brèches qui existent dans les présentations des participants d'ICANN. Lorsque on passe à la diapo suivante, que voilà, vous voyez ici, non, excusez-moi. Un petit problème, voilà, et c'est bon. Donc ici, je voulais vous montrer donc un écran. Et c'est lorsqu'on regarde les différents pays, on peut voir le nombre de personnes qui travaillent, qui appartiennent à la CRALO, le nombre de membres de la CCNSO, le nombre de membres du GAC, etc. Et combien de personnes se trouvent dans les unités constitutives du GNSO, etc. Donc, une fois qu'on a fait tout cela, on espère qu'on pourra donc faire démarrer tout cela pendant les premiers mois de l'année 2014. Il y a un lien sur la présentation que je vais poster sur le site internet pour que tout le monde puisse voir donc cette feuille et apprécier donc les changements. Quel est le plan futur pour le plan de communication? Je dirais que les prochaines étapes, après avoir identifié les documents, les différentes possibilités, opportunités qu'il y a dans chaque pays, pour donc réduire cette brèche. Donc nous allons travailler avec les médias, avec les personnes qui travaillent dans les journaux, avec des vidéos et dans ces différents pays. Une fois que nous aurons identifié toutes ces opportunités dans le domaine de la communication et de la publicité, nous allons voir ce qui est nécessaire pour chaque pays. Nous voulons développer des modèles aussi pour tenir compte de ces différents canaux en fonction de chaque pays. Et chaque modèle va montrer donc une partie spécifique du site internet. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que il est nécessaire que notre système de communication, notre plan de communication fonctionne vraiment bien et utilise vraiment bien notre site internet. Donc une fois que nous aurons ces modèles, nous allons développer du matériel final pour chaque pays et donc le programme de mise en œuvre. Voilà, je pense que c'était un bon résumé de notre activité. Bien, merci beaucoup, Devi, Fatima. Vous avez fait du très bon travail. Bravo à tous les deux. Il nous reste la présentation de deux projets de plus. Je vais vous demander de réduire vraiment à la moitié votre présentation. Gonzalo, vous avez la parole. Merci, Rodrigo. Nous allons vous parler du projet numéro 3 lié à la construction de compétences dans les domaines liés à la stabilité, sécurité et résilience du DNS. Et je voudrais souligner le fait qu'il s'agit d'un projet de construction collectif dont les principaux aspects ont été développés au mois de septembre dans l'atelier de l'ACTLD du Panama. Donc rapidement, pour vous donner un peu le contexte dans lequel nous avons travaillé, ce projet appartient au plan stratégique d'Amérique latine d'ICANN. Il date de 2013. Il dure sur 2013-2016 et il a trait au domaine d'intérêt numéro 2, c'est-à-dire des thèmes liés à la construction de capacités, divulgation, diffusion. Et ses objectifs principaux sont la promotion de la formation de compétences, développement de compétences techniques fondamentalement et pour les thèmes liés à la stabilité et à la sécurité et la résilience du DNS et l'assignation de ressources pour garantir la durabilité de ce projet et du cycle d'entraînement pour les experts qui puissent garantir donc la stabilité, la sécurité et la résilience des CCTLD. Ce projet vise à joindre les efforts des différentes organisations régionales comme le LAC-TLD, le LAC-NIC, la Société Internet, l'Internet Society, les différents CCTLD des pays pour promouvoir un développement ou des cycles de formation dans pour développer donc les compétences dans des domaines bien définis, soutenus et concernant le SSR et le DNS. Pour ce qui concerne donc la portée et les deliverables, nous allons travailler sur des thèmes donc de DNS, SSR technique et à différents niveaux. Les groupes ciblés sont les CCTLD, les fournisseurs de services Internet et différents fournisseurs et organisations liées à la fourniture de services dans le domaine du DNS, du système de nom de domaine. Donc, hein. Ce projet a été lancé en août 2013. On a identifié différents indicateurs, le nombre de professionnels, par exemple, professionnels entraînés, certifiés dans le domaine du SSR, total par an, hein, pour donc des formations face-à-face et virtuelles, le nombre d'événements de nouveau en face-à-face et virtuels que l'on pouvait organiser concernant le SSR du DNS annuel et mensuel. Et on a aussi réalisé un regroupement d'idées concernant les thèmes donc nécessaires et pour donc les ressources économiques et humaines, pour le sponsorat, les bourses qui pouvaient être offertes, et on a offert un site pour donc présenter et tous ces projets et de manière groupale des plateformes de laboratoire qui permettent d'être utilisées pour ce type d'événement. Et nous avons aussi proposé des ressources fournies par ICANN en termes de technologie de l'information, une plateforme de liste de mailing que nous utilisons, l'Adobe Connect. Et parallèlement, nous avons identifié la relation de ce projet avec d'autres projets, en particulier le projet des Energy Response Team régional pour les CCTLD d'Amérique latine et les autres projets qui sont liés à la construction de à la formation de compétences. Prochaine diapo. Ici, vous voyez la feuille de route que nous avons développée. Ici, la partie fondamentale, ça serait de travailler sur ce que nous avons déjà, de ne pas recréer du matériel, d'utiliser le matériel déjà disponible dans notre région. L'étape suivante a été d'identifier et de faire une cartographie du type d'organisation et d'entité, d'agence qui existait dans chaque pays au niveau régional et au niveau global qui travaille dans le domaine du SSR et du DNS et surtout dans notre région. L'étape suivante et l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement concerne l'identification et la catégorisation des activités et des événements qui ont lieu pour les aligner, les mettre en relation avec notre projet. Ensuite, nous voulons engager les différentes entités, les différentes organisations qui travaillent dans le domaine du SSR, du DNS, pour pouvoir les identifier. Et ensuite, l'étape suivante, c'est un travail transversal. Ce sera de mesurer et d'identifier les espaces et les manques qui existent dans la région en termes donc de stabilité, sécurité et résilience, de façon à mettre en place une prise de conscience et à proposer des outils pour pouvoir donc remédier face à des situations qui pourraient affecter notre stabilité, sécurité et résilience. Voilà, ici vous voyez les autres aspects à développer, hein, des activités complémentaires en termes d'entraînement, de matériel à créer et d'événements, donc pour donc couvrir ces espaces, utiliser ces espaces et donc atténuer ces manques qui peuvent exister dans les organisations de la région. Et nous voulons aussi donner davantage de pouvoir aux gens à travers des cycles d'entraînement de base, hein, et pour former les acteurs qui travaillent dans le domaine du DNS dans notre région, et particulièrement et dans l'atelier de Panama, on a développé un entraînement de Les Rock pour les TLD qui a eu beaucoup de succès. On a aussi abordé les questions de réponse en cas de crise et à différents niveaux et des projets de simulation de différents types de situations et des projets visant à entraîner les acteurs pour mettre à jour les programmes de formation comme les certifications par exemple. Voilà, ce serait plus ou moins un bon résumé de ce que nous avons fait jusqu'ici. Merci beaucoup, merci Gonzalo, merci pour votre brièveté et merci, excusez-nous, on est un petit peu en retard, c'est pour ça qu'on se dépêche. Bien, je vais vous parler du projet numéro 4 maintenant. Je vais commencer à vous le présenter. Il s'agit d'une équipe de réponse en cas d'urgence pour les CCTLD de la région. On n'a pas décidé que ce devait être un CERT ou un CCIRT. On n'a pas vraiment décidé de l'approche qu'on allait avoir. Ce qu'on veut, c'est travailler sur un mécanisme qui nous aide à coordonner les efforts dans le domaine de la sécurité au niveau des CCTLD. Et dans une perspective donc différente à la perspective traditionnelle. Donc une perspective différente. Ici, vous voyez la définition de notre projet. Si vous voulez voir le détail, l'important ici, c'est sur cette diapo, c'est la deuxième ligne, hein, la deuxième puce qui dit que cela est lié à l'aspect politique. Nous avons 4 lignes d'action dans la stratégie de notre région et celle-ci concerne des aspects politiques. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un thème de sécurité, technologie et d'infrastructure qui est lié à des questions politiques. Et c'est la nouveauté ici. Nous pensons que dans la mesure où nous allons pouvoir apprendre au niveau technologique, nous allons pouvoir réduire les risques politiques du modèle multipartite dans notre région. Et nous avons établi des indicateurs. Et si vous voulez davantage d'informations, vous les trouverez sur la page sur laquelle nous avons défini. Et donc, c'est le travail réalisé à Pékin lorsque nous avons réalisé la première partie de ce travail. Ensuite, nous avons réalisé un effort d'analyse, des entretiens avec le groupe qui a défini ce travail, des entretiens avec des personnes qui n'appartiennent pas à ce groupe. Nous avons eu des difficultés pour pouvoir établir et organiser ces entretiens, mais finalement, nous avons pu obtenir un ensemble donc concernant les attentes et les besoins dans ce groupe multipartite. Et c'est là que finalement se trouve la richesse de ce processus multipartite. C'est un petit peu lent peut-être, mais finalement, ce projet nous permet vraiment de nous enrichir parce que nous avons les opinions des différents parties prenantes, des différents groupes. Nous avons établi ici une liste des attentes de ces différentes dimensions, de ces différents aspects. Et le prochain travail est de commencer à définir ce que nous allons faire concernant tous ces projets, parce qu'on ne peut pas travailler sur tous ces projets. Nous avons des ressources limitées, nous avons peu de temps, et donc nous devons définir clairement qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous allons faire en premier, par quoi nous allons commencer. Alors, donc, nous allons établir ce groupe ou créer ce groupe de travail qui, lorsque nous allons commencer à travailler, ce groupe va commencer à remonter ses manches, à mettre les mains à la pâte pour donc définir la portée de ce groupe. Et c'est ce que nous devons faire, justement, pendant les mois à venir. Si vous avez envie de participer, ceux qui ont déjà organisé ce type de choses et créé un CERT, venez nous voir, apportez-nous votre expérience. Pour nous, ça va être des mois de beaucoup de travail. Nous avons une idée de travail à long terme et les erreurs qui seront commises ici seront des erreurs qui vont avoir un impact à long terme aussi. C'est pour ça qu'il faut être prudent et nous voulons travailler lentement mais sûrement pour assurer des bons résultats. Ceux qui ont de l'expérience dans ces questions, s'il vous plaît, venez nous voir, vous serez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Oscar. Oui, vous avez fait du très bon travail. Merci pour cette présentation qui a été brève. Nous allons maintenant faire un petit peu le lien entre cette session et la session suivante. Donc, sans autre introduction, nous passons à la session suivante. Merci beaucoup. Il s'agit d'un espace pour tous les membres de l'Amérique latine et des Caraïbes ici présents. Nous incluons ici tout le monde, les gouvernements aussi sont les bienvenus. Notre objectif est d'avoir un espace pour que tous les projets interagissent et nous avons... Notre objectif est d'augmenter la participation de notre région dans les réunions de l'ICANN et dans l'ensemble de l'écosystème de l'ICANN. Pas seulement pour les réunions de l'ICANN. Et nous voulons aussi promouvoir l'aspect commercial du business lié donc à l'industrie du DNS dans chaque pays de notre région. Voilà. Donc, ici, vous voyez, nous avons aujourd'hui la première opportunité d'avoir ce type d'espace. Donc, vous voyez que c'est possible d'être ici, tous ensemble, de nous réunir. Et nous sommes nombreux, parce que nous sommes en Amérique latine, bien sûr. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur de l'Amérique latine, lorsque nous sommes dans d'autres pays aussi, nous voulons que cet espace continue à exister et puisse ainsi informer les autres des opportunités commerciales, des opportunités de business qui sont liées au DNS dans notre région. Bien. Une de plus, comme ça nous ne perdons pas de temps. Voilà, ici. Donc, simplement, notre idée, ici, les idées pour lesquelles nous vous demandons de contribuer, de nous envoyer des informations. Nous commençons à obtenir certains objectifs, atteindre certains objectifs et nous travaillons sur des paramètres, par exemple. Nous voulons évaluer, mesurer les statistiques, analyser les statistiques pour voir quelle est notre présence ici en ICANN au niveau de la région. Nous construisons des espaces aussi dans les médias sociaux, comme Facebook, LinkedIn, Twitter, pour donc maintenir cet espace ouvert pour que d'autres dans d'autres régions puissent interagir avec nous et travailler avec nous pendant donc cette période. Voilà, ici, vous voyez nos adresses d'email. Donc, si vous avez des suggestions, des idées pour participer à ce projet, n'hésitez pas à nous en faire part. Et nous allons maintenant commencer la deuxième partie de notre session de LACSpace. Et pour cela, nous voulons d'abord remercier Graciela va le faire. Bien, bonjour à tous. Merci d'être ici. Merci pour votre présence. Nous sommes en train de mettre en place ce projet numéro 5. Et ce que nous faisons, nous invitons des orateurs de la région qui vont nous parler de choses importantes pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Marcos Puerdon, qui est président de la partie de commerce électronique de la région, qui va nous parler de ce que nous faisons au niveau de l'Institut avec cette initiative de gouvernance pour encourager la participation des entreprises d'Amérique latine à ICANN et dans tout ce qui est lié à la gouvernance d'Internet.
Merci, Gabriela. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Merci. Je voulais vous raconter d'abord, j'ai participé à d'autres réunions de l'ICANN et votre
niveau de participation m'a beaucoup impressionné, ainsi que le niveau des dissertations aussi. Je voudrais remercier Rodrigo, Vanda, Gabriela et toute l'équipe qui a possibilité notre présentation ici aujourd'hui, de ce que depuis le secteur privé on fait depuis 14 ans, ce qu'on respire tous les jours, ce que vous nous donnez, qu'est l'Internet, pour faire que ce soit un instrument qui permet à nos compagnies, à nos professionnels, à nos entrepreneurs, de réduire le fossé économique qui nous sépare des pays plus développés avec plus de ressources. Nous sommes ceux qui ajoutons les contenus, ceux qui travaillons pour équilibrer et pour possibiliter que l'Internet permette à toutes nos compagnies, à toutes nos petites et moyennes entreprises de générer tout ce qu'ils ont fait à travers les canaux traditionnels. La présentation, s'il vous plaît. Donc, en définitive, je veux reprendre quelques mots que Fadi a dit au début de ce panel. Et je pense qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble entre le secteur public et le secteur privé et le secteur académique aussi. Je pense qu'on est déconnecté. Il y a 4 ans, Gabi, lorsqu'on a commencé à s'engager avec la CAN et à y amener la voix du secteur privé, des compagnies qui génèrent des contenus, des utilisateurs de l'Internet au monde de l'ICANN, et je parle de l'Amérique latine. Pour moi, c'était vraiment une découverte. Diapo suivante. Et c'était là que nous, depuis l'Institut latino-américain du commerce électronique, on est un hub, donc un groupe d'institutions, on est 18 institutions de 18 pays dans ce centre. On représente plus de 80% des entreprises qui font le jour à jour du commerce électronique dans la région, ceux qui font que cet Internet existe, qui lui donne sa raison d'être. On s'est rendu compte qu'on est très loin de l'Internet et qu'on a besoin de créer un pont entre vous, qui êtes ceux qui gouvernent l'Internet, qui font que ce soit possible d'utiliser l'Internet, dans ce ciment ou ces tuyaux dont on se sert pour pouvoir construire en-dessus ce qu'on construit, qui est le commerce électronique, les affaires sur Internet, le télétravail, le commerce électronique, tout ce qui apporte des contenus à l'Internet. Diapo suivante. Donc à partir de cela, nous avons créé cette initiative de gouvernance qui est dirigée par Gabriela et par Célia et qui vise principalement à créer ce pont. Ce pont avec un langage, et c'est une critique que je me fais. Lorsqu'on a commencé à parler il y a 14 ans de commerce électronique, on parlait de COMATS. Et en fait, on crée un fossé de plus en plus grand parce qu'on parlait en difficile. Et les compagnies veulent vendre. Si elles le font à travers Internet, c'est un canal différent que ce qu'ils ont utilisé de façon traditionnelle. Et la personne, c'est pareil, ils veulent travailler, que ce soit sur Internet, qui est le grand exposant de la technologie de l'information et des télécommunications. Et ce qu'on doit faire, en définitive, est de simplifier le discours. Et c'est un travail qu'on essaie de faire à travers différentes initiatives. Et c'est ce qu'on a fait en 2013. Diapo suivante. On a fait, à partir de décembre 2012, différentes activités avec la participation de vous tous. On vous remercie. Et c'était fait avec le soutien de l'ICANN. On a commencé à créer ce pont et à traverser ce pont pour communiquer les deux parts. Les deux parties qui étaient communiquées avec un concept dont on se sert beaucoup en Argentine, c'est le triangle de Sabato. Il ne faut pas oublier donc que l'écosystème entier doit travailler ensemble. Et depuis le secteur privé, on a une vision de court terme. Et je pense que cela fait partie de nos génétiques, de penser comment on va payer les salaires à la fin du mois, comment on va payer les services, comment faire que nos compagnies s'élargissent, qu'elles génèrent plus de croissance et de postes de travail dans notre secteur. Mais en fait, nos membres, en tant qu'institut de deuxième degré, nous, et on a des chapitres locaux dans chaque pays, il faut qu'on pense non seulement au secteur des syndicats et des patronats, il faut qu'on pense au long terme. Et c'est là que le pont est en fait plus large. Il faut qu'on travaille ensemble avec des institutions telles que la CAN pour apporter ce message aux compagnies qui sont en fait les consommateurs, les sociétés et les utilisateurs finaux. Et on crée différentes façons de traduire ce message. C'est un message qui se traduit à travers la participation active dans les différentes rencontres, dans les différentes activités. Je mentionnais spécialement Gabi et Celia qui ont plein de kilomètres, déjà des miles dans leur compte, mais qui traduisent ces activités. Ils nous traduisent, nous. Vous regardez Big Bang Theory, je sais pas. Ceux qui regardent, en fait, la série, on a des Sheldons et des Amys dans notre écosystème. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Moi, je ne sais pas ni qui est Sheldon, ni qui est Amy ici. Mais chacun va, bien sûr, comprendre qui est qui ici. Et ils traduisent ce message. On a des séminaires web. On a différents événements qu'on organise pour pouvoir traduire. Tony parlait aujourd'hui des e-commerce days. Cette année, ces e-commerce days se sont faits dans 10 pays de la région. Et pour l'année prochaine, on a ajouté le Paraguay. Donc, on va être 11 pays dans ce tour. Et ce qu'on fait, c'est de montrer le rythme de commerce électronique des magasins sur Internet dans chaque pays. C'est l'événement le plus important de l'industrie en Argentine. Et ce qui nous permet d'ajouter des pistes de thématiques par sujet pour amener toutes ces questions et tous ces sujets et discussions aux sociétés. Le 3-4 décembre, on aura le dernier e-commerce day du jour à Bogota. Il y aura 14 000 entreprises qui vont y participer. On ne dirait pas que c'est beaucoup, mais pour notre région, c'est énorme. On participe aussi avec la génération de contenu aux différents événements, avec les différents canaux dont on se sert pour atteindre le consommateur final. Et pour moi, cela est important, c'est d'avoir Vanda, d'avoir Fatima et Gabriela qui investissent leur temps et qui en même temps nous permettent de transmettre le message. C'est important. Et voilà pourquoi on veut continuer de faire ce que Fadi disait, de construire cette synergie et ces partenariats, comme on dit au Brésil, qui nous permettent d'atteindre ensemble le but final, qui est d'avoir des entreprises engagées. Autrement, on aura le scénario du Brésil ou des différents pays lorsqu'on ne s'engage pas. On a des régulations qui peuvent faire que notre affaire puisse ne pas être une bonne affaire et que cet instrument fantastique est l'Internet qui nous permet de réduire cette fossé ou ces fossés, principalement pour nous le fossé économique, ne puisse pas aller à la vitesse nécessaire. Ce que j'ai appris dans que j'ai entendu les experts qui font partie de notre institut, c'est que l'autorégulation est très importante dans notre industrie. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que cette autorégulation nous permette de continuer d'avancer dans notre secteur. Diapo suivante. Je finirai là notre participation ou notre exemple qu'on nous a demandé de montrer dans cette présentation, qui est comment, lorsqu'on travaille ensemble, on peut faire que ce pont dont on a besoin de créer soit plus large et plus long. On a commencé avec un événement en Argentine en 2007. On est présent en 10 pays de la région aujourd'hui. Ce sont certaines des initiatives qu'on a en tant que secteur privé, mais la plupart de nos initiatives sont en fait articulées dans ce triangle qu'il faut qu'on construise ensemble. Voilà pourquoi on vous invite à continuer à investir non seulement votre temps, votre argent et vos ressources pour construire ensemble ce dont on a besoin pour que la gouvernance Internet soit partagée. Merci. Bon, c'est Vanda Scarteseni qui parle. On va continuer avec Ariel. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à participer encore une fois, Rodrigo et les autres organisateurs. Comme vous savez, Cavalcé est clairement engagé avec ce processus depuis le début. Et nous participons non seulement en Argentine, mais on essaie aussi de participer à travers l'encouragement et donnant de l'élan à toutes les entreprises régionales qu'il y a, nous encourageons des organisations telles que Lightning, LAC-IX, Ecomlac, ISOC. Et maintenant, en outre, on essaie de déposer une candidature pour avoir un bureau d'enregistrement en Argentine. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on essaie de montrer qu'on s'engage avec tous les processus, dans tous les processus. Cavas est aujourd'hui réuni à peu près 160 institutions de la République argentine, la plupart desquelles sont des sociétés, mais on a aussi des organismes de gouvernement, tels que l'Agence fédérale d'impôts, le ministère de justice, le ministère d'économie et des finances. On a le réseau interuniversitaire avec nous. Et CABAS est une association qui a non seulement des activités de syndicat, de quelque sorte, mais qui a aussi la responsabilité de gérer les points d'échange de trafic d'Internet dans la République argentine, ce qu'on appelle les NAPS. À l'heure actuelle, nous avons 10 NAPS qui sont interconnectés dans la République argentine et qui fonctionnent. On a un NAPS central à Buenos Aires aussi. Et on a 5 autres qui sont en développement en ce moment et qu'on espère avoir en opération dans les prochains mois. Dans ce scénario, nous allons encourager la croissance Internet dans la République argentine. Comme Marcos a dit tout à l'heure, nous encourageons et nous disons tout le temps que l'Internet doit être encouragé et pas régulé. Et nous sommes des acteurs fondamentaux dans cette défense. Bien que nous comprenons qu'en Argentine, en définitive, l'Internet dépend d'un service de télécommunication et les services de télécommunication sont un marché régulé. Donc il faut qu'on comprenne comment interagir pour encourager le développement et l'accès pour que chaque fois plus de participants puissent accéder à plus en plus de contenu argentin ou latino-américain. Nous croyons que les trafics de l'Internet doivent être, pour la plupart, dans notre région et qu'on doit encourager l'interconnexion de toute la région pour un meilleur développement de l'Internet. Notre participation en tant qu'entreprise, en quelque sorte, dans la région, est représentée, en définitive, par 3 acteurs que nous avons ajoutés à toutes ces réunions, que la plupart de vous connaissent. En définitive, c'est Tony Harris, le directeur exécutif de CABAS, la personne qui a été assignée de façon prioritaire à ce travail, à tout ce qui porte sur la CAN, Oscar Messano, qui est aussi le président de l'ACNIC, et moi-même, pour occuper, en quelque sorte, ce que j'appellerais la plus grande quantité d'associations et d'endroits où il faut qu'on essaie de participer tous les jours. Beaucoup parmi nous interagissent aussi dans les différents comités et groupes de travail pour essayer de développer les activités de notre association. On espère et on croit fermement qu'il faut qu'on continue d'accompagner ce processus et qu'on participe à tous les processus de gouvernance Internet et de développement d'activités commerciales pour faire que notre région grandisse. Donc voilà comme introduction et conclusion de ce qu'on fait. Merci Ariel, c'est Van Descartesini qui reprend la parole. Nous allons maintenant continuer avec les CCTLD, qui sont stratégiquement commerciaux. Nous invitons Oscar Robles du Mexique, Patricio Joséin de Trinité Tobago et Eduardo Santoyo de .co, donc de Colombie, qui vont nous expliquer ces noms de premier niveau géographique des pays en leur propre mot. Merci. Si vous voulez, on peut passer à la diapo suivante pour aller aussi plus vite. Vous connaissez le Nick Mexico, on ne sait pas qui c'est qui parle. Je pense que c'est Oscar Robles. On est né en 1989, on aura bientôt 25 ans. Et comme tout autre CTTLD, on a deux responsabilités de base. D'une part, de maintenir la publication de la zone, qui est le système de résolution de noms de domaine de façon efficace, et de définir les mécanismes pour l'accès à la base de données à travers EPP, à travers les registres, à travers le système que chaque CTTLD choisisse.
Et ces deux responsabilités ont été tenues depuis. En 2003, on a créé NIC Mexique. C'est une société civile. Donc, ça s'appelle NIC Mexico. C'est une entité séparée du Monterrey. Et c'est une entité indépendante qui vise à se centrer, à être plus efficiente dans nos propres processus. J'arrive pas à voir depuis ici. J'ai le même problème que Tony. On est trop loin. On a presque 300 000 clients. Vous pouvez faire vos propres numéros. Et chaque client peut faire à peu près des domaines enregistrés. On a presque 60 millions d'enquêtes dans notre infrastructure pour les DNS. C'est un grand nombre par jour. Vous voyez que c'est 60 millions par jour. Et pour la plupart des fois, on a beaucoup de messages courts qui sont envoyés sur Internet que sur le réseau de téléphone traditionnel du Mexique. Donc pour ce numéro, on a des locations géographiques distribuées qui sont presque 8 où on a nos bases de données. Il y en a qui sont nos propres et il y en a qui sont des accords avec certaines entités telles que NIC Chile, PCH et ECC aux États-Unis par exemple. Et la plupart des enquêtes viennent de hors du Mexique. Presque 70% des enquêtes qui sont faites sur .mx viennent de l'extérieur. Bon. Donc, une partie de notre stratégie était la diversification. Je vous montre ici une image des unités commerciales. Je commence par la gauche. C'est notre unité commerciale qui est centrée sur l'administration du .mx en tant que registre. Mais sur la partie centrale, on a aussi le bureau d'enregistrement. On a un schéma de registre et de bureau d'enregistrement au Mexique. Et on est aussi un registre. Donc on a la possibilité de renforcer certaines stratégies sans dépendre du reste des registres. Mais bien sûr, il faut offrir des bénéfices pour que les gens s'enthousiasment avec la vente du domaine .mx. Récemment, on a été accrédité par la CAN pour devenir des bureaux d'enregistrement du .com, .net, .tv et .cc. Ça a été un cauchemar, vraiment, parce que ce n'est pas seulement, comme Tony a dit, qu'il y a beaucoup de barrières à surmonter, mais en fait, ces barrières ont été créées pour le premier monde, pas pour notre réalité de l'Amérique latine. Et ce n'est pas des barrières technologiques. Ces barrières, on les surmonte tout simplement, comme je suis sûr. C'est le cas de Cabas et de nos amis de .2012. Ce sont des peu entrepreneurs de la région qui se posent candidats pour des domaines. Et on fait face à des barrières dues à des processus bureaucratiques qui déplacent nos efforts pour développer cela. On a été accrédité à la moitié de 2013, on n'a pas pu lancer notre solution parce qu'en ce moment, il faut qu'on signe un nouveau contrat qui établit de nouvelles conditions pour publier le WIS, pour publier les informations, pour les valider. Ce sont des formats et des processus d'NSSEC et IPv6. Et notre solution, disons, est comme dans les films qui vient d'ailleurs. Hein, c'est arrêté en ce moment. Pour pouvoir lancer ce projet en un an, même si nous voilà déjà à 6 mois de notre accréditation. Voilà notre registre. Mais enfin, c'était que des actions qui visaient à une diversification et qui, même si on est soutenable et durable avec notre stratégie de .mx, on cherche à diversifier dans d'autres activités, de rendre cette vigueur à nos activités avec certains autres projets. Le .lat, dont on va vous parler tout à l'heure, est aussi un de nos efforts pour contribuer à ces initiatives dans la région. Nous, en tant qu'opérateurs du registre, du back-end,
On est aussi chargé d'assigner les adresses IP au Mexique. Et en même temps, on a aussi une autre unité commerciale au Mexique chargée de certifier des factures électroniques. Au Mexique, on a l'exigence de l'autorité fiscale de timbrer les factures. On a 70 fournisseurs de timbres officiels. On est une de ces entités. On ne vient que de commencer avec ces activités cette année. Et l'idée est d'avoir un portefeuille divers qui, comme toute autre organisation, nous permet de diversifier les risques et d'atténuer les fluctuations dans les demandes de l'un des services et qui nous permettent de maintenir nos opérations et nos centres d'attention toujours sur le point MX pour maintenir la stabilité, la résilience, la capacité en dépit de la résistance qu'il y a dans le système de nos domaines, tant au niveau local comme au niveau global. Bien poursuivante. Et comme je disais, il faut qu'on maintienne aussi notre attention sur notre affaire centrale, qui est le point MX. Donc on est en train de libérer le DNSSEC pour le point MX pour atténuer les questions de responsabilité. On a aussi vu ce processus parce qu'on a vu dans le chemin voir des registres tels que .de, .org. Donc je ne vois pas ma propre présentation. L'internationalisation, hein. Donc je vous disais qu'on a vu beaucoup des grands registres échouer, le .de, le .org, certaines entités en général vu le DNSSEC, on ne veut pas répéter leurs erreurs. Peut-être on fera de nouvelles erreurs, mais de répéter leurs erreurs, ça ne serait pas intéressant, ça ne serait pas une nouveauté. On a beaucoup fait d'essais, on aurait presque 9 mois d'épreuves de façon exhaustive. On se sert des différents validants et on espère qu'on aura inauguré la zone pour le premier trimestre de l'année prochaine. Donc, on veut donner la certitude au bureau d'enregistrement accrédité au Mexique et au monde. Et la certitude aux grandes sociétés qui ne veulent pas perdre leur domaine dû à une erreur administrative interne. Donc, ces mécanismes porte de la certitude et de la forteresse à nos services clients. Au début de cette année, on a commencé un processus d'administration de la qualité. On a commencé un processus de certification de qualité à travers lequel on cherche de définir nos services les plus pertinents pour le client, pour essayer de les faire répétibles et pour modifier la quantité ou la qualité des ressources, du temps. C'est une variabilité qui porte sur beaucoup de facteurs en tant qu'organisation qui est grandie de façon explosive ces dernières 10 années. Donc cette année, on finit cet ensemble de processus et l'idée est de continuer presque peut-être un jour avec ces certifications, mais le but est de certifier la qualité pour nous permettre de maintenir ces processus adéquats pour le public. Et finalement, je voudrais vous raconter qu'on cherche ou on vise un concept compréhensif de développement des affaires, des finances, du service client, mais aussi avec l'employé qui est notre principale ressource, qui est le collaborateur interne. On a des collaborateurs du Mexique, on est une organisation de 120 personnes et on vise à ce que les personnes qui sont là puissent travailler de façon libre dans un environnement adéquat. Cette année, on a été choisi ou sélectionné pour la 4e fois comme l'une des meilleures sociétés pour travailler au Mexique, ce qui était très satisfaisant parce qu'on cherche ou on vise vraiment à maintenir ces trois dimensions, la financière, celle du service client et celle des ressources humaines, pour développer de façon simultanée nos projets et ainsi éviter ou prévenir les déséquilibres qui empêche notre développement. Maintenant, j'invite Patricio Cosin d'Ivan Scartesini qui va nous parler du point d'été.
Bonjour, je suis Patrick Cosin. Je suis l'administrateur de point TT qui est opéré par le TTNCH. C'est le centre d'information de réseau de Trinité et Tobago. Je m'excuse, je n'ai pas de présentation. J'ai mal compris, je pense. Je n'avais pas compris quand est-ce que j'allais présenter, mais je vais vous donner un aperçu de TTNIC et de ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire dans l'avenir. TTNIC était formé il y a à peu près 18 ans et opère et gère Point TT depuis l'époque. On a fait de différentes actions le long du temps. On a déployé DNSSEC. Mais ce qu'on a fait est d'essayer de développer l'industrie des télécommunications et des technologies et de l'informatique. Et ce qu'on a fait en particulier ces dernières 13 années, par exemple, et qu'on héberge et qu'on fournit des noms de domaine gratuits pour toutes les institutions gratuites d'Internet de Trinité et Tobago. Ce sont des instituts de niveau qui donnent de l'hébergement gratuit dans leur nom de domaine et aussi des noms de domaine gratuits. On parraine aussi beaucoup d'activités, des activités de l'ISOC, des activités de la Société Internet de Trinité et Tobago, etc. Nous avons des bourses à l'université. On donne des prix. Donc, on fait beaucoup de services à la communauté. Ce qu'on a récemment commencé à faire était de s'engager avec les données ouvertes. Donc, on cherchait à ce que Trinité ait une approche plus agressive envers les données ouvertes et on a pris cette initiative pour déployer différentes plateformes pour les dépôts, pour les répertoires de données. On avait la plateforme CECAN, par exemple, pour les données ouvertes. On a une autre plateforme qui s'appelle maps.tt. C'est un répertoire d'autres données. Et on est en voie de développement d'un troisième répertoire qui va héberger des données en temps réel. Ces répertoires vont être utilisés par les développeurs d'applications, pour les applications web ou les applications mobiles, pour pouvoir utiliser les données de différents ministères et des organisations pour développer leurs applications. Donc, ce sont des activités présentes ou passées. Et ce qu'on regarde ou qu'on considère, en tout cas, en termes de plan futur, est une usine à idées du sort de TIC, de TIC. Donc, en définitive, on prend les idées des universités pour les aider à valider ces idées et commencer leurs propres entreprises, etc. Donc, voilà un projet qui est dans son début. Par rapport à la gestion du domaine.tt, on suit le modèle multipartite et donc on a un conseil d'administration multipartite qui donne des instructions et de politiques au domaine.tt. Le conseil est formé par 6 membres et 5 sont en ce moment ici à Buenos Aires. Donc ils sont très actifs dans les activités de l'ICANN. Et je pense que c'est tout. Merci. Merci, c'est Vanda Scartesini qui reprend la parole. On n'a pas du temps, bien sûr, on est en retard. Et on ne peut pas continuer avec la traduction, avec les gens qui sont en train d'interpréter. Alors je voudrais
demander au reste de Nawan de parler en anglais si possible, parce que la plupart des personnes peuvent suivre en anglais. Et je pense que c'est la seule façon de continuer sans l'interprétation. Donc je voudrais inviter Eduardo Santoyo de Point.co pour qu'il nous donne des idées sur ce qui se passe avec Point.co. Et puis après ça, on a les personnes des nouveaux GTLD, Point.has et Point.bar du Mexique, Point.lat de cette région, de l'Uruguay et de l'Argentine, et Point.final du Brésil. Merci, Vanda. Je suis Eduardo Santoyo et j'opère le registre de CCTLD et on fait un peu d'histoire. Donc c'est la seule façon de ça a été délégué à la Colombie depuis 1991.
The other registries on the region and probably in the world, a delegation through a university. In this case, was the University of Los Andes, which who run the registry for almost 20 years. But the last 10 years of the activity on the University of Los Andes has been very, very criticized, or not probably criticized, but more affected for some discussion that we had in the Colombia and in Colombia with participation with many communities, civil society, the politicians, government discussed why is one organization, a private organization, running the CC for Colombia. And after almost 10 years, or probably after 10 years of discussions, finally in 2008, after having passing discussions in courts, in many forums, and the Congress, a law finally was passed who decided that the Colombian government has to take control and decide how to run the registry of that CO. And in 2008, they used two different resolutions from the Ministry of Information and Technology, which, first of all, define the model that has to be executed to run the .co registry that I'm going to refer in a short time, next